Merci et bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux d'être aux côtés de Daniel Cordier, ému même d'avoir cette présence si édifiante pour le siècle que les historiens du contemporain étudient.
Attendez, peut-être qu'ils vont nous siffler.
Peut-être ils nous siffleront, c'est possible. Hein. On peut espérer que non, mais bon. En tout cas, je remercie François Lapeyroux et José Cuculrello d'avoir organisé cette rencontre, ce dialogue que j'espère fructueux. Et je voudrais donc tout de suite sectionner notre propos en sectionnant un petit peu les parties de votre vie, des vies, on pourrait dire des vies, hein, une existence riche, foisonnante, et peut-être commencer par le commencement, et j'aurai pour fil rouge ce qu'a dit José de manière générale, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, monsieur Cordier. Tout d'abord, parler de votre jeunesse. Vous êtes un homme qui est né dans les années 20, en 1920 précisément, et vous avez grandi dans l'époque si difficile, si compliquée des années 30, hein, 10 ans, 15 ans, dans cette période compliquée, période troublée, qui amène à la défaite, à la débâcle, à l'occupation. Et vous êtes né dans la région de Bordeaux, hein, de parents négociants. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, vous le dites dans vos mémoires, vous l'évoquez à plusieurs reprises, c'est un engagement qui est celui de beaucoup de Français à cette époque-là, c'est-à-dire un engagement dans l'Action française assez jeune.
Très jeune.
Et justement, j'aimerais que peut-être nous ayons un premier échange sur cette jeunesse maurassienne, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est donc effectivement engagé très tôt. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent moins, je dirais, dans la vie politique. Et vous, très jeune, vous étiez engagé dans l'Action française. Comment avez-vous vécu cette, notamment les Camelots du Roi, hein, effectivement, qui était la branche vigoureuse, on va dire, hein, pour employer de l'Action française. Comment en êtes-vous venu à militer auprès, en ayant pour maître Charles Maurras et auprès des Camelots du Roi ?
Non, mais je peux vous rassurer.
Ça marche. Hein.
Je peux vous rassurer en ce sens que déjà à mon époque, c'est-à-dire au collège, puisque j'étais pensionnaire à Arcachon, et les gens qui s'engageaient dans la politique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'était s'engager quand on avait 13-14 ans, ben, c'est vendre les journaux, mm-hmm. c'est distribuer des tracts, c'est, si l'on est accepté, faire partie du service d'ordre, d'ailleurs, c'est bon. Et voilà, c'est à peu près ça. Et puis, acclamer Maurras quand il venait à Bordeaux, mais ça, c'est plus tard. Mais, vous savez, ça, je ne sais pas, il faut demander à chacun d'entre nous, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont besoin de s'engager. Mm-hmm. Ils ont besoin d'avoir un œil au beurre noir, ils ont besoin d'en donner un
autre. D'en découdre.
Ah oui, mais ça, je ne sais pas. C'est parce que ce que j'observe, enfin ce que je crois observer, c'est qu'à l'époque, nous étions très peu nombreux, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes sont toujours très peu nombreux à s'engager. Non, mais
on peut vous suivre.
Si on défile parce qu'on vous demande un jour de participer à une grande manifestation et tout ça, bon, vous avez tout le monde qui est prêt à défiler, enfin beaucoup de monde qui est prêt à défiler. Mais militer, ce n'est pas défiler. C'est tout à fait autre chose.
Oui.
Parce que c'est il faut faire des conférences, il faut inviter les gens, il faut animer. J'avais fondé un cercle à Bordeaux un peu plus tard que le collège, et quand j'avais 17 ans. Évidemment, ça s'appelait le cercle Charles Maurras, évidemment. Et alors, bon, il fallait organiser, nous organisions des conférences. Nous étions, mais pour vous donner une indication, nous étions 70 de toute la Gironde. Uh-huh. Non, parce que ça vous donne peut-être une idée de ce que c'est que. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit plus nombreux. Parce que les gens qui sont passionnés pour une idée, pour faire de la propagande, pour défendre soit la droite, soit la gauche, ce que l'on veut, eh bien, je crois que c'est toujours très peu de monde. Parce que, surtout quand on est jeune, il y a les filles, il y a les balles, les sorties, les choses comme ça. Et nous, par exemple, j'avais créé un journal, un mensuel, qui s'appelait Le Maüs, très original. Et alors, les nuits, du samedi au dimanche, les nuits, nous passions à renéotyper et à mettre ce mensuel dans une couverture cartonnée, qui était bleue. Et alors, il y avait quelqu'un qui, avec un pochoir, marquait le bahut, etc., etc. Voilà, c'est ce que... Il y a beaucoup de jeunes qui font ça, mais il n'y a jamais, je crois, beaucoup de jeunes. Donc, si vous voulez, ben voilà, peut-être il y avait trop d'énergie, ou peut-être pas.
Et alors, il y a ces événements assez importants pour l'histoire de France dans cette époque, à l'époque où vous avez 14-15 ans, c'est-à-dire ces fameux événements du 6 février 1934, où on voit la République bousculée, on va dire, notamment par les ligues, quelques ligues, hein, voilà, c'est ça. Et en même temps, le Front populaire. Comment vous avez traversé ces années de jeunesse, qui sont très jeunes pour vous? Est-ce que vous avez quelques souvenirs de cette époque du 6 février 34, les ligues menaçant la République, et en même temps, du Front populaire?
Non, il faut que je vous dise. Mes parents étaient divorcés.
Oui.
Bon, ma mère avait divorcé très jeune, et quand j'avais 4 ans. Et puis, bon, elle s'est remariée assez rapidement. Et mon beau-père, qui s'appelait Charles Cordier, était le fils d'un directeur de journal qui était le grand journal de Bordeaux. Pardonnez-moi, mais je ne me souviens plus actuellement son nom. Ça me reviendra. Et c'était un journal d'extrême droite.
Oui.
C'était en 1890, c'était Avian, l'Action française, et d'ailleurs, ce grand-père, Cordier, qui dirigeait ce journal, avait été un ami de Maurras, qui était un jeune homme
à
cette époque. Donc, si vous voulez, il y a dans la famille Cordier, la famille de ma mère et de mon beau-père, Il y avait ce passé, d'ailleurs, il y avait cette collection de journaux. Voilà, et donc, j'ai toujours entendu parler de ça. Et je me souviens très, très bien, j'avais 14 ans. Je n'avais pas tout à fait 14 ans au moment du 6 février 34. Et j'étais pensionnaire au collège. Et je me souviens, nous avions deux jeunes hommes qui avaient 22 ans, 23 ans, qui étaient des pions au collège, parce que c'était un collège religieux, mais c'était des pions. Et je me souviens très, très bien, ils nous ont dit, enfin, on était un petit groupe, je crois qu'on était une quinzaine dans ce collège, avant la chose. Et ils ont dit, mais tu vas voir, nous partons à Paris, et demain, c'est la révolution et le roi revient.
Oh. Ah.
Alors, on a attendu le retour du roi, mais ils sont revenus 2 jours après.
Et au contraire, c'est le Front populaire qui a pris les devants. Enfin, c'est la gauche qui s'est mobilisée après ce 6 février 34.
Ah ben heureusement, écoutez.
Heureusement. Et alors, mais Léon Blum, à cette époque-là, vous l'appréciez guère? Léon Blum.
Ah non, mais...
C'était...
La gauche sont les criminels. Enfin,
la gauche sont des criminels, voilà, effectivement. Et Blum était un criminel.
Mais il faut remettre les choses.
Absolument.
Enfin, pardonnez-moi, mais...
Alors, la gauche sont des criminels. Et Hitler. Hitler arrivant au pouvoir. La menace allemande. Cette marche à la guerre qui se met en place progressivement à partir de l'axe Rome-Berlin, 1936, à peu près.
Oui, tellement, si vous voulez, la marche à la guerre, c'est aussi... Nous étions pour la guerre. D'abord, c'était pour la guerre.
Pour affronter.
Pour affronter Hitler, abattre Hitler, etc. Vous savez, je n'avais pas beaucoup d'autres idées que les siennes.
Bien sûr.
Enfin, qu'une partie des siennes. Et donc, ça, il était très... Et mon beau-père, ma famille, était contre Hitler, ainsi de suite.
Et alors, on arrive à un tournant, José l'a évoqué, un tournant qui est effectivement le début de la guerre. Donc, 1939, la guerre est déclarée. Et vous, pour vous, vous le dites dans vos écrits, dans l'évocation de votre passé, il y a ce déclic tout à fait important, qui est aussi un déclic pour la société française et pour la France, qui est ce déclic de juin 40. Ce déclic de juin 1940, au moment où, effectivement, vous réagissez, vous, personnellement, et vous êtes un peu en rupture avec cette jeunesse.
Je dois vous dire qu'avant, au moment de la guerre, le 3 septembre 1939, j'avais demandé à mon père, j'étais en train de passer mon bachot, et j'avais été demandé à mon père de me donner l'autorisation de m'engager. Parce que ça, je ne sais pas, c'est une génération, enfin en tout cas moi, dont tous les parents, mon père avait été prisonnier pendant 3 ans, mon beau-père était grand mutilé à 100% de la guerre de 14, était volontaire à 18 ans. Et j'avais 2 jeunes cousins qui étaient morts à 21 ans et 24 ans dans les chars et puis dans l'infanterie. Donc, il y avait 4 personnes. Donc, si vous voulez, la guerre...
On vivait
en
avec.
En dehors de mon caractère, mais la guerre était un héritage.
Un héritage, oui.
Et puis alors, il y avait aussi quelque chose, c'est que la France de ces années-là, c'est-à-dire des années 30-35... C'était la France des anciens combattants.
Très C'est-à-dire présent.
C'est-à-dire que vous n'avez qu'à regarder dans tous les villages, vous avez des monuments en bas, vous avez le nom de tous les gens qui sont morts, etc. etc. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y en avait plus de 5 millions. Et que quand nous vendions l'Action française, j'avais donc... 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, il y avait toujours, à un moment donné, un ancien combattant qui nous disait « Vous êtes des mioches et quand vous aurez fait la guerre, vous aurez le droit de parler, mais maintenant, allez faire vos devoirs et taisez-vous. »
Une expérience fondatrice que de s'engager pour la défense de la France.
Mais
tout le monde n'a pas choisi cette option tout de suite, comme vous.
Mais écoutez, si vous me demandez la suite, vous allez vous apercevoir.
On va la demander, justement. Donc, il se passe ce temps de la drôle de guerre où la guerre ne se fait pas. Hein, et puis, la débâcle est juin 40. Et vous entendez le discours de Pétain.
Ah oui.
Et ça réagit chez vous. Il y a une réaction.
J'ai réagi. Je me souviens, c'était dans. Nous habitions à côté de Pau. Les Pyrénées, et ma mère avait une vie assez tardive, elle était dans son bain au moment où Pétain devait parler de tout, et je l'ai appelé, et mon beau-père qui rentrait de l'usine a dit, ben, on va écouter Pétain, et vous allez voir, la France va sortir, oui, parce que ça n'allait pas très bien, hein.
Non,
les Allemands étaient
à Bordeaux. Aux portes, de Bordeaux.
Oui, mais il était sûr que Pétain allait tout changer.
Et tenir un discours
absolument.
De rigueur.
Oui, mais moi je répétais ce qu'on me disait. Vous savez, dire Pétain va sauver la France, et tout ça. Et ça.
Donc vous êtes collé à la radio, vous écoutez.
On écoute la radio, et après des débuts, faut tout le monde, et Pétain annonce que, il dit, mais... Je vais demander aux Allemands les conditions de l'armistice. Ah, mais quoi ? C'est un vieux con. Ça a été terrible. Et je me souviens, j'ai quitté mes parents, je suis monté 4 à 4 dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était incompréhensible. Mon père m'avait refusé de pouvoir m'engager en 39. Et puis maintenant, c'était Pétain qui disait « Mais toute la France n'a pas besoin de faire la guerre, etc. »
Parce qu'il faut s'imaginer que Pétain représente quand même l'autorité. C'est une figure de la France à ce moment-là.
Absolument. Vous savez, j'étais quelqu'un de droite. Pétain... Mais c'était ça. Et au fond, j'ai dit, on va voir. Mais c'est un vieux con, ça ne peut pas se passer comme ça. Et alors j'ai pris ma moto, je me souviens, j'ai quitté la maison, mes parents avaient commencé à déjeuner, et je suis allé à Pau, qui était à 25 km, où il y avait la permanence de l'Action française, où l'on vendait les journaux, etc. Et je suis arrivé à 3h, et je pensais qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Mais il n'y avait personne, parce qu'il n'y avait plus que les collégiens qui militaient, puisque les autres étaient mobilisés, les camelots du roi étaient mobilisés. Et qu'au fond, les collégiens, à 3h15, ils étaient au collège, il fallait attendre 4h15 pour qu'ils viennent à la permanence.
Oui.
Voilà. Et alors, ça m'a donné... Enfin, j'étais dans tous mes états. Mais alors, ça m'avait permis de trouver la solution.
Ah.
Ah oui. Et alors, quand ils sont arrivés, j'ai dit, voilà le discours de Pétain, qu'ils n'avaient pas entendu, évidemment. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, mais j'ai une idée. On va emprunter les voitures de nos parents, et puis on va demander... tous les fusils de chasse de nos familles. Et puis, on va sur la route de Bordeaux. J'habitais Pau, n'est-ce pas,
pas très loin.
La route de Bordeaux. Et puis, quand l'armée allemande arrive, on tue tous les Allemands qu'on peut. Et puis quoi, là, me demandent mes camarades.
Oui.
Et bien, après, ils nous tueront. Mais enfin, nous serons vengés.
Ça, c'est...
Personne.
Oui, personne n'était d'accord avec cette option. Mais oui, quand même. Mais ben, on sent déjà un Daniel Cordier qui était à 20 ans. Vous aviez 20 ans à cette époque-là.
Ah oui, j'avais pas très... 20 ans.
Vous aviez à peine 20 ans. Voilà, pas 20 ans. Et...
Oui, mais en fait, c'est décevant parce que c'était pas mal. Enfin, voilà.
Donc, nous sommes le 17 juin 1940.
Ah oui, on est le 17 juin. Et alors, et finalement, on commence à discuter. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, si vous voulez, on fait une réunion. Parce qu'à l'Action française, on en a dans un parti politique, quand il y a un problème, on fait
une réunion.
Alors déjà, on gagne du temps, parce qu'il faut faire un tract. Et nous avons écrit un tract de 3 lignes. J'ai encore un exemplaire. Je l'ai porté chez l'imprimeur. Et l'imprimeur devait nous donner le texte le mercredi. Nous étions le lundi 18 juin. Et il devait nous donner le texte le mercredi. Et alors, on avait marqué que la réunion, c'était le vendredi. Le vendredi 21 juin. Le mardi, je n'ai pas entendu le général de Gaulle, parce que nous étions à Pau, mais nous étions à 25 km de Pau.
Donc vous n'avez pas entendu l'appel que peu de gens, finalement, ont entendu. Oui.
Non, mais il y a eu, dans les journaux, il y avait des petits extraits, pas dans tous les journaux, mais dans beaucoup de journaux, il y avait quelques lignes, mais bon, c'était un général.
Un général parmi d'autres, en plus, pas forcément...
C'était le chaos total. Non, mais il faut comprendre la situation. Vous aviez quand même, on ne sait pas exactement le chiffre, mais entre 7 millions et 10 millions de Français sur les routes.
Sur les routes, mis en
des routes.
Chemin. Oui.
Non, mais à pied, à bicyclette, avec des voitures d'enfants, avec des voitures qui n'avaient pas d'essence et qui tombaient en panne et que les gens abandonnaient. Et puis les avions allemands qui avaient mitraillé les gens, etc. Il faut essayer de représenter ça. Non, mais les gens n'avaient plus envie de... Surtout, n'oubliez pas ça quand même, c'est entre 7 et 10 millions de gens. C'est quand même un quart de la France.
Oui. Ah oui, il faut se rendre compte de ça.
Ben oui, il y a les vieillards, les trucs, mais ben, ça sont des jeunes qui des gens qui sont partis, qui avaient des poussettes, qui étaient des charrettes en voiture, enfin, etc. C'est quelque chose de
alors, vous, Daniel Cordier, vous décidez aussi de vous mettre en mouvement.
Oui.
Vous allez partir.
Non, mais je ne savais pas. Non, mais après, mes camarades ne semblaient pas intéressés d'aller affronter l'armée allemande en tirant des coups de fusil de chasse. Eh bien, après ça, je n'avais plus d'idée. Et donc, je dis, l'avantage, mais ça c'est l'avantage de tous les partis politiques, l'avantage de préparer une réunion, c'est que ça laisse un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. Mais je n'avais pas idée. Mais c'est mon beau-père qui a tranché, parce qu'il était industriel et il voyait très souvent le préfet. Il y avait des négociations pour les grèves, cela. Et nous avons déjeuné ensemble le mercredi. Le mercredi 19 juin. Et il m'a dit, je viens de voir le préfet. Bon, il faut que vous partiez. Il m'a dit ça. Et donc, il m'a dit, la réunion que tu fais pour tes amis, il faut que ça soit tout de suite, parce qu'après, il sera trop tard pour partir. Parce que le préfet veut interdire le couvre-feu à 10 heures du soir, et donc personne ne pourra partir entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Donc, si vous voulez aller à Bayonne, pour trouver un bateau pour aller en Afrique du Nord, eh bien, il faut le faire vite et maintenant. Et alors, je suis revenu à la permanence de l'Action française, où on avait reçu les tracts, et j'ai dit à tous mes camarades, eh bien, il faut prendre les tracts un par un et annuler, vous biffez la réunion qui doit avoir lieu vendredi et vous mettez à la place jeudi.
Jeudi 20 juin.
Et puis alors, le préfet, c'était mon beau-père, il dit ça, le préfet a pris une mesure, c'est qu'il a reçu les tracts que tu avais fait pour annoncer ta réunion, mais la réunion, c'était dans une salle de musique qui donnait des conférences, des choses comme ça, c'était une très grande salle, et la réunion est interdite. Donc il faut savoir où tu vas faire cette réunion. Et il m'a dit, mais écoute, j'ai une idée, tu vas demander au maire de Pau, qui est un de mes amis, c'était Verdenal, c'était un ancien combattant, tout ça c'est l'époque des anciens combattants, et il va te donner l'autorisation de faire ta réunion dans le hall de la mairie, et la police n'a pas le droit, je vous le dis, si vous voulez faire une réunion,
mais si, à
n'a pas le droit, non, de rentrer dans
la
le
salle
hall d'une mairie.
D'une mairie, bon.
Et là, ah oui, ça peut vous servir, on ne sait jamais.
C'est jamais, si on veut fomenter quelque chose à Cannes.
Voilà. Et alors, bon, je passe les choses, nous avons fait cette réunion, et finalement, il y a eu un monde fou, et je n'ai rien pu dire, parce que tout le monde parlait. Il y en avait dans la mairie, il y avait des parents qui avaient accompagné les jeunes et tout ça, il y en avait sur l'esplanade de Pau. Ça, c'était le chaos total. Alors, on m'a fait monter sur 3 ou 4 marches de l'escalier qui allait chez le maire pour essayer de
prendre la parole, oui.
Mais non, on ne prend pas la parole dans ces territoires-là. Tout le monde parlait à la fois. Et puis alors, les gens me posaient des questions que je trouvais à cette époque infâmes. Il y a une dame qui m'a demandé, mais quels sont les repas que vous allez donner à mon fils ? Écoutez, on part pour faire la guerre, elle s'intéresse à la nourriture de son fils. Non, mais tout était de ce niveau-là.
Vous, le jeune homme de 20 ans, étiez un peu consterné et par alors, ces questions.
Nous avons donné une réunion, nous avons annoncé une réunion qu'on se rende, tous les gens qui étaient décidés à partir, à quitter la France, devaient aller au monument aux morts, sur la grande place de Pau, et puis de là, avec une valise, et de là, je les conduirais dans un endroit où nous prendrions des cars pour aller à Bayonne.
Bayonne,
n'oubliez pas que Pau, c'est à 100 km de Bayonne.
100 km,
voilà. Et donc, c'est ce que nous avons fait.
Alors, combien de personnes avec vous?
Eh bien, écoutez, c'était merveilleux. Il y avait plus de 100 personnes, c'est-à-dire 5 autocars. Mais quand c'était au garage, mon beau-père avait ses autocars, ça lui appartenait.
Il gérait l'entreprise.
Seulement, quand le premier autobus dans lequel je me trouvais est sorti sur la route, il y avait une demi-section de l'armée avec un fusil mitrailleur par terre. Et les hommes étaient par terre avec les fusils. Et le sergent nous a dit, demi-tour, parce qu'il est 10 heures, c'était faux, il était 10 heures moins le quart, mais enfin, mm-hmm. Rentrez dans le garage où nous vous tirons dessus. Et nous avons reculé. Et tout le monde est descendu de l'autobus. Et on ne savait pas quoi faire. Lorsque des jeunes qui travaillaient dans ce garage avec mon beau-père ont dit, mais nous couchons dans les autobus et demain, nous partons par le service de 7 heures qui rejoint Bayonne dans la matinée. Bon, j'ai dit, mais c'est ça. Mais alors, on avait dit à tout le monde d'aller le long des routes, de la route qui allait vers le golfe de l'autre côté de Pau, pour les prévenir. Et en voiture, avec mon beau-père, on leur a dit, voilà, demain, nous prenons tous l'autobus de 7 heures. Et la même chose, nous allons à Bayonne pour essayer de trouver un bateau pour partir. Et le lendemain matin, nous avons couché à l'Action française. Dans le local de l'Action française. Et le lendemain matin, à 7 heures, nous étions, il y avait un autobus qui nous attendait, et puis il y avait 5 autobus derrière pour aller à Pau, puisque c'était...
Pour la Bayonne.
Voilà. Et alors, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient dans l'autobus, et puis ces personnes, nous étions 15. Voilà.
15.
Et il y en avait 2, il y en avait 100 la veille.
La veille, bon, la nuit oui. Portant conseil.
Oui. Ah oui, non, ça, il n'y a pas d'autre que la nuit doit. Je ne sais pas si c'était un bon conseil.
Oui, c'est pas forcément.
Mais je pense que la nuit n'avait pas seulement conseillé les gens qui étaient dans l'autobus, mais elle avait porté conseil à tous les Français. Parce que nous avons trouvé un bateau belge, mon beau-père a payé les choses. C'était un transporteur de maïs.
Le Léopold II, c'est ça, hein, le bateau. Léopold II, il s'appelait. Non, c'est ça.
Léopold II. Oui. Et c'était un bateau belge et qui arrivait du Brésil avec une cargaison de maïs. Il avait essayé de la livrer en Belgique et puis après au Havre et puis à Brest et à Bordeaux et puis il arrivait à Bayonne le matin. Et on lui avait dit, les Allemands arrivent ce soir. Alors, ils sont arrivés seulement le lendemain.
D'accord.
Mais ils arrivent ce soir.
Mais Daniel Collodier, pourquoi partir? Et pourquoi s'embarquer Non, mais aller vers où? Aller vers où? Quelle est la raison? Quel est le but du voyage?
Ah oui, mais le but du voyage, il est très simple. On rejoint l'Afrique du Nord parce que là, il y a l'armée française et que l'armée française va vaincre les Allemands. Vous savez, c'est Il ne faut pas demander trop d'explications à quelqu'un qui a 20 ans et qui veut se battre.
Donc l'idée, c'est de partir vers l'Afrique du Nord.
Voilà la chose. Et alors, nous sommes arrivés à Bayonne, nous avons trouvé ce bateau belge, mais simplement, il nous a dit, je ne sais pas où je vais. Ah bon, parce que nous voulions aller en Afrique du Nord. Je ne sais pas où je vais, parce que le ministre, je ne sais pas si c'était du ravitaillement, je parle, le ministre belge du ravitaillement est monté ici avec ses archives, et il veut, je ne sais pas si je le ferai, mais il veut que nous l'emmenions en Angleterre.
Oh. Aïe, 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 changement de direction.
Hein? Ah, mais non, mais c'est nos adversaires, les Anglais. Oui. Ils ont tué Napoléon.
Bon, il y a eu un peu l'entente cordiale entre-temps, mais enfin, bon.
Voilà. Voilà où on en était. Et alors, effectivement, le capitaine nous a demandé d'aller acheter de la nourriture, des jambons, etc., du fromage, etc. Et il nous a dit, il faut à peu près un jour et demi pour aller en Afrique du Nord. Et nous sommes revenus et nous sommes partis à 7 heures. Et puis, quand la côte était vraiment quasiment invisible, au soleil, il faisait un temps superbe. On voyait le phare de Biarritz, c'était super. Et les moteurs se sont arrêtés. Et oui, parce que la discussion a commencé entre le ministre et le capitaine du bateau. Ouais. Bon, nous étions fatigués, on est descendu parmi le maïs et on a dormi.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et alors, quand on s'est réveillé, le capitaine m'a demandé à me voir. Alors là, on était en pleine mer et ça. Mais oui, je ne sais pas, il y avait beaucoup de vent, c'était le contraire de la veille.
Vous aviez le pied marin ou... Oui, vous avez le pied marin.
Ah mais, oui, par hasard, le pied marin, ça veut dire que... On tient le coup.
On tient le coup, tant bien que mal. Dit,
oui, j'ai le pied marin, mais enfin, la plupart de mes camarades, nous étions, je crois, 4 à avoir le pied marin, comme vous dites, mais les autres, ils chaviraient. Voilà. Et puis alors, à un moment donné, le bateau a ralenti et tout ça, et il y avait une barque. Et on a trouvé une barque, on s'est approché de la barque, et il y avait un mort, tout nu, et qui était avec du mazout, là. Mm-hmm. Il était remonté sur le bateau, enfin, je ne sais pas comment, mais il devait y avoir quelques jours, parce qu'il était très, très gonflé. Je me souviens du silence de tout le monde quand on a vu ce garçon-là. Puis nous sommes repartis. Et alors, au bout d'un jour et demi, mm-hmm. il nous avait dit qu'on arrivait en Angleterre, et il y avait l'horizon, il n'y avait rien. Et alors, tout d'un coup, le capitaine me fait demander et me dit, mais je dois vous dire que nous arriverons demain soir et en Angleterre. Ah ben je lui dis, mais pourquoi? Mais parce que il y a un des soldats belges que l'on avait, qui avait un fusil mitrailleur, et il l'a mis au-dessus de la cabine. Et alors, le compas qui était bloqué sur l'Angleterre, et nous partions en Amérique.
Ah oui.
Ok. Alors, ça a eu peut-être un avantage, c'est qu'on n'a pas été coulé, peut-être.
Peut-être. Vous avez été dérouté, donc, bon, effectivement. Voilà.
Et alors, effectivement, le lendemain soir,
vous arrivez.
On est arrivé, et c'est drôle, parce que je ne connaissais pas l'Angleterre, je ne connaissais pas tout. Et on est arrivé, il faisait un temps magnifique, et le sud de l'Angleterre, de loin, ça ressemble à Biarritz,
au oui. Pays Bas. La Cornouaille, c'est là, en Cornouaille, que vous attachez.
Oui, c'était le dernier. Oui. On a visé le dernier port, là. Voilà. Et alors, simplement, on n'avait pas prévu ça, puisqu'on prévoyait de partir en Algérie.
En Algérie.
Maroc. Et à mesure qu'on s'approchait de l'Angleterre, on disait, mais est-ce que... Est-ce qu'ils vont nous accepter? Non, parce que, oui, parce qu'il faut vous dire que la paix était signée, que l'armistice était signé par Pétain depuis 2 jours.
Depuis 2 jours, oui, absolument.
Voilà. Ouais. Et alors.
Et puis vous n'aimiez pas trop les Anglais. Les Anglais, c'était pas trop votre tasse de thé, en fait, en tant que.
Oui, mais écoutez, on faisait la guerre.
Sans jeu de mots.
Tout. Oui, mais enfin, eux. Non, mais c'est à eux qu'il faut demander. Oui. Parce que c'est eux que Napoléon. C'était eux.
Oui. On sent bien qu'il y avait une animosité. Non, mais bon.
Il faut vous dire que mon grand-père était bonapartiste.
Ah,
c'est pour
voilà.
ça que Napoléon, c'était le premier homme politique qui a été pour moi tout.
Une sorte de héros, bien sûr.
Ah oui, c'était le héros. Et alors voilà, et on est arrivé. Bon, ils nous ont laissé dans le bateau pendant une nuit. Et le lendemain matin, le lendemain matin, on a enfin mangé parce qu'on n'avait plus rien à manger. Mm-hmm. Et les Anglaises avaient monté sur le port. Il y avait une très grande tente. Et là, il y avait de quoi manger. Et alors, c'était du thé, mais c'était des pailles, des pâtés. Mais tout ça, c'était délicieux.
Délicieux.
Ils étaient charmants.
Oui, bon.
Et ils semblaient nous accueillir, enfin, c'est-à-dire avoir besoin de nous. Hein. Voilà, et puis on nous a mis dans le train.
Oui,
on a passé la nuit dans le train avec des soldats qui contrôlaient le compartiment, enfin le wagon. Et puis nous sommes arrivés à Londres et nous avons été en banlieue dans un collège de sourds et muets. Bon, on avait vidé l'école, mais c'était un collège de sourds et muets. Voilà. Et alors il y avait tout, il y avait environ 4000 personnes, mais de tout, de Pologne, de tout. Il y avait des Français, il y avait des femmes, des enfants.
Des gens qui fuyaient la guerre et qui se retrouvaient à Londres.
Comme nous sommes arrivés, l'armistice était signé donc depuis 2 jours, et on nous a annoncé que le consul de Vichy, enfin du nouveau gouvernement, allait venir prendre les noms pour nous rapatrier en France avec un bateau. Alors, effectivement, quand il est arrivé, nous étions à peu près un quart des 4000 personnes qui étaient là. Et peut-être moins d'un quart. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes, tout ça. Alors les gens donnaient leur passeport, donnaient leur carte d'identité, etc. Et puis, nous ne voulions pas. Et une fois que le consul a donné toutes ses indications, je me suis approché de lui et lui disais, monsieur le consul, je suis un Français. Je viens d'arriver en Angleterre avec des camarades, mais nous voulons nous battre. Alors, où faut-il s'adresser? Et il a dit, mais vous êtes fou? Vous n'avez pas entendu le maréchal Pétain? Je n'ai pas entendu. Mais il a fait la paix, et donc, vous rentrez en France. Ah, je lui dis, c'est trop difficile à venir en Angleterre, je n'ai pas peur à partir en France. Et alors, il m'a dit, écoutez, ça vous coûtera la liberté parce que vous irez en prison. Je tournais le dos, je suis parti. Mais enfin, là, il y avait quand même un problème.
Il y avait un problème déjà.
Comment ? Oui. Alors, il y avait des journaux anglais dans le kiosque, dans le seul kiosque que l'on avait monté. Et on a trouvé une déclaration en anglais du général de Gaulle. Et alors, je ne parlais pas un mot d'anglais, bien entendu, et nous avions parmi nous un garçon qui parlait l'anglais comme le français admirablement, et qui nous a traduit. Et c'était une interview du général de Gaulle. Et cette interview ressemblait un peu à ce qu'il a ce qu'il a dit à la radio, etc., etc., etc.
Donc vous avez désobéi au consul d'une certaine manière. Le consul, pour vous, ne représentait plus grand-chose.
Ah ben, c'était un traître.
C'était un traître, déjà, pour vous.
Bon. Ah oui, mais absolument.
Et alors, absolument. Ce général de Gaulle, vous l'avez rencontré?
Ah oui, mais alors... Alors
je ne veux pas vous faire tout raconter, parce que sinon... Allez-y. Mais on peut...
Mais si ça intéresse...
Ben, je crois que ça... Si, ça intéresse tout... Non. Allez-y, continuez.
Non, mais il faut dire.
Oui, il faut tout dire.
Non, mais on peut changer de sujet.
Non. On ne va pas changer de sujet. On est au cœur du...
La fin de la guerre.
Non. On veut savoir comment vous êtes venu à rencontrer le général de Gaulle.
Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais enfin, d'abord. Après 2 jours, il y a un officier, un lieutenant d'artillerie. Et on nous a prévenus, on nous a dit, mais ceux qui veulent s'engager avec le général de Gaulle, il y a un officier qui vient et qui va vous faire des propositions et tout ça. Mais il n'était pas, je ne sais pas si c'était un artilleur ou un cavalier, mais ce n'était pas quelqu'un de très aimable. Et il nous a réunis et nous étions... Et il y avait mon ami Guénat, parce que c'était... Guénat est quelqu'un qui a fait une carrière.
Yves Guénat, le futur politique.
Le futur. Mais oui, Yves Guénat, parce que ça vous donne un bon exemple de l'âge que nous avions. Yves Guénat a eu 18 ans à Londres le 2 juillet.
Vous avez fêté son anniversaire.
Oui, parce que le 2 juillet, c'est étonnant, mais c'est son anniversaire. Et donc, il avait 18 ans. Et les quelques garçons qui étaient là, il y avait les frères de ceux qui étaient plus âgés, alors qu'il y avait 17 ans, 16 ans, etc. Et puis, j'étais dans les plus âgés. J'avais 19 ans. Je n'avais pas encore 20 ans, mais j'étais parmi les plus âgés. Et alors, nous étions donc peut-être une cinquantaine, une soixantaine. Et nous avons tous été volontaires, nous avons donné nos noms. Et l'officier nous a dit, mais écoutez, je dois vous dire, parce que nous sommes en Angleterre, et vous avez 3 solutions. Ou vous rentrez en France, il y a des bateaux, vous rentrez en France. Ou vous vous engagez en Angleterre comme ouvrier et on vous donnera du travail dans les usines anglaises. Ou il y a le général de Gaulle qui va former une armée et si vous voulez, vous pouvez vous engager avec lui. Alors tous, évidemment, on était pour cet inconnu, enfin, le général de Gaulle. Et il a pris nos noms et puis il a dit, dans 2 ou 3 jours, on vous dira ce qu'il faut faire. Et puis il est parti. C'était assez... Bon, enfin, voilà. Et alors, effectivement, je crois que c'est 2 jours après, à la fin de la journée, je crois qu'il devait être 7h ou 7h30 le soir, il y a deux autobus, je crois, qui sont venus nous prendre à la sortie de ce collège et qui nous ont emmenés à Londres, à l'Olympia Hall. L'Olympia, c'est un peu comme le Grand Palais. C'est un endroit où on fait des expositions de tout, des chevaux, des machines à laver,
centre de congrès.
Et alors, oui, c'est-à-dire que c'est un local qui a 3 étages.
Vaste.
Et il est à la sortie de Londres, mm-hmm. mais encore dans Londres. Et alors, nous sommes arrivés Et il faisait nuit, il devait être 9h, 9h30. Et on a ouvert, on est arrivé pas du côté de l'entrée du public, mais du côté de l'entrée des machines, tout ce que l'on expose. Mm-hmm. Ce sont des immenses portes que l'on ouvre comme ça. Et je me souviens très bien, celui qui nous emmenait a dit « Attendez une seconde, je vais faire de la lumière. » Parce que tout, c'était pratiquement dans le noir, il y avait très très peu de lumière. Et il a allumé quelque chose. Et puis nous avons avancé avec nos valises, nos sacs. Il y en avait qui étaient en culotte courte, il y en avait qui n'avaient pas de veste. Enfin, il y avait tout. Et puis tout d'un coup, quand nous sommes arrivés à peu près au centre de l'Olympia, il n'y avait pas d'exposition à ce moment-là, il n'y avait rien. Nous avons vu au deuxième et au premier, il y avait des garçons qui étaient allongés, certains dormaient peut-être et d'autres venaient de se coucher, et qui se sont mis sur le balcon pour nous regarder. Et à ce moment-là, il y a eu des mots, le Conquet, Brest, c'était ça, parce que c'était tous des Bretons.
Ah oui.
Et oui, évidemment, la France libre, c'était 60% de Bretons. Ah oui. Évidemment, c'était ceux qui étaient
proches.
Les plus près. Ah oui,
les Alsaciens.
Les gens de Pau, il n'y en avait pas beaucoup.
Oui.
Et alors, et ce qui est très curieux, et alors il y avait des réponses de notre part, Brest, je ne sais pas quoi, enfin, il y avait des paysans, il y avait tout, il y avait évidemment beaucoup des étudiants, des collégiens. Et ce qui est très curieux, et quand je vous dis ça, ça me... À un moment, nous avons entonné la Marseillaise.
D'accord.
Et c'est une des Marseillaises les plus bouleversantes.
Émouvantes.
Je me souviens. Parce que les plus âgés n'avaient pas 20 ans.
Mais oui, c'est ça.
Et on venait tous pour tuer les Boches. Et là, il y a eu... Bon, je ne vais pas vous en parler, mais c'était bouleversant. Et puis alors, ben, nous sommes montés. Et alors, le général de Gaulle est venu nous voir. On nous a annoncé. Il est venu nous voir le 7 juillet.
7 juillet.
Et alors, pendant ce temps-là, eh ben, on nous a formés par section, par groupe, etc. On nous a appris à marcher. On ne savait pas marcher. On ne savait rien faire. Et alors, il y avait des jeunes qui avaient fait vous savez ce que se font les jeunes.
Les classes.
Et bien, finalement, cela nous apprenait à marcher au pas, etc., etc. Et finalement, le 7 juillet, le général de Gaulle est venu. Alors, on nous a fait descendre très tôt, on nous a organisé.
Et il vous parle, alors?
Ah, mais nous étions au rez-de-chaussée, et il y avait 3, 6, 9. Il y avait 9 sections. Et 9 sections de 30 garçons. Et alors, évidemment, moi, j'ai eu la chance d'être, c'est la seule fois, parce que je ne suis pas très grand, et ce sont toujours par les grands,
les grands
devant, exactement, et j'étais toujours un peu au milieu. Mais ce jour-là, j'étais devant, parce que j'avais une chemise et une cravate. Et une veste. Et alors, comme il y en avait qui étaient en culotte courte, qui n'avaient pas, Et j'ai eu beaucoup de chance parce que on m'avait mis, ma section s'était installée en face de cette fameuse porte énorme dans laquelle nous étions rentrés la veille. Et alors, à 9h, la porte s'ouvre et il y a un rayon de lumière, il faisait un temps, c'était l'été, un temps, etc. Il y avait du soleil, et la porte sous, la porte basse dans la grande. Et alors, je vois un très grand personnage qui rentre en se baissant, parce qu'il avait son épi, et puis il était très grand, et c'était le général de Gaulle. Et alors, il est venu vers nous, mais très... il était en leggings, et il était suivi de son officier d'ordonnance, et puis il s'est mis devant nous, et on nous avait mis au garde à vous, et on avait mis au repos pour écouter le général de Gaulle. Et les premiers mots qu'il nous a dit, je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir.
Oh. C'était un peu fort.
Ah, mais j'étais indigné.
Parce que le parcours était quand même difficile pour arriver jusqu'à Londres.
Et alors, bon, il nous a dit, mais vous aurez beaucoup de... Vous voyagerez beaucoup, vous irez à l'étranger, parce que notre armée doit être présente sur tous les fronts, etc., etc. Bon, voilà, puis et il a fait le tour, et puis il est parti. Vous savez, parce qu'il visitait des camps, il y avait d'autres groupes, et tout ça... Voilà, parce qu'il y avait l'armée française qui était dans des camps et il a essayé, ça a été très difficile. Et alors, pour lui, il n'y a personne. Finalement, l'armée française pensait qu'il y avait presque 30 000 personnes et qu'il y a eu 70 en général des officiers lieutenants, sous-lieutenants, choses comme ça, parce que la France libre, c'était très peu de monde. Et la France libre, c'était donc les collégiens.
Ces collégiens qui étaient là, vous étiez les premiers acteurs de la France libre.
Eh bien, nous étions 630.
630.
Et puis, il y avait la Légion étrangère, qui, elle, s'était battue en Norvège. Et il y avait deux bataillons. Il y avait un bataillon qui faisait le contraire de ce que l'autre faisait. Alors, il y avait un bataillon qui avait choisi de se battre avec le général de Gaulle. Ils étaient environ 1200. Je vous donne des chiffres approximatifs, parce que c'était approximatif. Et puis, il y avait 700 marins, des jeunes marins, parce qu'on avait pris leur bateau. Les Anglais avaient pris tous les bateaux des marins français et tout. Et donc, il y avait quelques jeunes marins qui étaient avec nous. Voilà, ça ne s'appelait pas l'armée, ça ne s'appelait rien du tout.
Ça ne s'appelait rien du tout.
Mais les troupes du général de
Gaulle. Qu'on a appelé les Légions de Gaulle.
Et alors, nous avons appris à marcher au pas, etc., etc.
Et alors, les mois qui suivent, comment vous avez vécu
Alors, le processus, il y a quand même... La dernière histoire que je vous raconte sur ce début, c'est le 14 juillet. Parce que le 14 juillet, le général de Gaulle a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Foch, dans le centre de Londres. Et il y a une photo qui est très intéressante, parce que c'est la seule qui existe. C'est, on voit le général de Gaulle penché en avant pour déposer la gerbe, et derrière lui, il y a une rangée de soldats, le fusil qui présente les armes, et qui ont le casque français, mais qui ont le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, la Légion étrangère, qui a... Un foulard. Parce que il n'y avait aucun Français capable de présenter les armes au général de Gaulle. Et donc, c'était les Allemands qui étaient dans la Légion étrangère, qui nous avait rejoints. Mais vous avez une photo, vous pouvez le voir, vous avez la photo.
La photo officielle.
Voilà.
Très bien. Alors, vous êtes affecté par la suite, vous avez une affectation. Une fois que vous êtes à Londres, vous rentrez dans un service qui s'appelle...
Ah oui, alors attendez, non, parce que pardon... Il y a deux ans, vous sautez.
Il y a deux ans, oui, je saute deux ans, mais non, on va. Attendez. D'accord.
Non. Ah, non,
on est tranquille.
Je suis d'accord. Non, mais pour qu'ils comprennent un peu.
Oui, d'accord.
Enfin, je ne sais pas. Vous voulez savoir.
Oui, ils veulent savoir, oui. Ils veulent tout savoir. La totale. Oui. On a le temps, on est tranquille.
Non, mais je suis un petit soldat.
Oui, vous êtes.
Et alors, bon, on a appris, etc., etc. Et. Quand on a eu fini d'apprendre à être des soldats, c'était très rapide parce que nos officiers nous disaient que c'était extraordinaire, mais jamais on a eu. C'était des officiers d'active et des chasseurs alpins. Ils disaient, mais jamais on a eu des soldats comme vous qui apprennent, qui veulent savoir. Parce que dès qu'il y avait une corvée, on rentrait, enfin les sous-officiers rentraient dans la chambre. Alors la corvée, etc., tout le monde levait les mains. Enfin, oui, c'était. C'était pas une armée ordinaire. Et puis, finalement, quand c'était fini, pour Noël, avant Noël, le général de Gaulle est venu nous voir. Et nous avions changé de campement. On nous avait donné un campement merveilleux qui appartenait à des Canadiens. Et puis après, on avait été à Kamehale, qui était un petit village où il y avait l'école des officiers anglais, et on avait habité dans des maisons. Et parce qu'on construisait notre camp, qui était un petit peu en dehors de la petite ville, et qui n'était pas fini. Bref, quand le camp était fini, nous sommes installés, le général de Gaulle est revenu nous voir. Et je vous signale qu'entre-temps, il est venu nous voir l'hiver.
Yeah.
Mais le général de Gaulle est venu nous voir à peu près tous les 15 jours. Et bien, il est venu avec des officiers anglais, avec le général en chef de l'armée anglaise. Et un jour, au mois d'août, il est venu avec quelqu'un d'inconnu. C'était le roi.
Oui.
Il est venu nous voir.
Ah oui.
Ah oui. Et quand nous racontions ça,
oui,
dans les bistrots de Kimberley après, les Anglais vous disent que c'est pas possible. Il n'est jamais venu nous voir. Et bien nous, les Français, il est venu le voir.
Donc vous aviez pris de l'importance d'une certaine manière.
Ah oui. Hein. Voilà. Et puis alors, donc, et pas. Et à ce moment-là, quand nous avons fini de faire nos classes d'officiers, il y a les 20 premiers qui sont partis en Afrique pour encadrer le territoire africain, les troupes que l'on avait trouvées. Et puis nous, rien. Alors à ce moment-là, nous étions désespérés parce que
vouliez de l'action, vous étiez parti pour agir.
Ben, écoutez, oui, mais on était parti pour tuer des boches.
Ben, en Angleterre, il n'y avait pas de masse.
Écoutez, il n'y en avait pas. Alors, c'est ça le show. Et donc, à ce moment-là, bon, c'était au début du mois de juillet, j'ai un camarade, nous avions tous des camarades avec qui nous avions fait nos études et tout ça, et c'était un père blanc qui avait mon âge, et il me dit, je vais te dire un secret qu'il faut répéter à personne, je pars, je vais à Londres dans les services secrets, et je vais être parachuté en France. Oh, je lui dis, mais que comment on peut y aller ? Ben, j'étais prêt. Ah, mais il m'a dit, si tu veux, je vais demander à l'officier, il est encore là. Alors, Gilles Allais, c'était le capitaine bienvenu du BCRA. Le BCRA, c'était le nom du service secret.
Le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA. Voilà.
Et alors là, mon vieux, je préfère vous dire que jamais on a entendu mes talons claquer. Non, je voulais qu'il ait une image inoubliable. Et alors, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, etc. Je dis, voilà, je voudrais n'importe quoi, je voulais me battre. La seule chose que je veux, c'est tuer du monde. Bon, il m'a dit, ça, on verra. Enfin, ah oui, mais... Et donc, il a pris mon nom. Et le drame, c'est que le lendemain, j'avais prévu de partir en vacances à Londres. On n'avait rien à faire. Oui. Donc, voilà. Alors, je pars à Londres. Non, parce que comme il avait.
Vous aviez appris l'anglais à ce moment-là ? Vous aviez appris l'anglais ?
Oh, mais je ne parle pas un mot d'anglais. Non, quand on est français, on ne parle pas l'anglais.
Bon.
Oui. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je le regrette, mais c'est drôle parce que. Maintenant, il faut vous dire qu'il y a une raison aussi. C'est que nous étions tous ensemble.
Oui.
Mais oui, parce que on parlait peu l'anglais. Et puis, quand la journée était finie, on restait dans le camp. On jouait aux cartes, on lisait. J'avais un phonographe, on écoutait.
Pas de sortie, c'était.
Ah confiné. Oui, on était, tous les soirs, on était libres de sortir, mais. Il n'y était pas. Alors, il y avait quelques. Alors, c'est assez intéressant socialement. C'est-à-dire que les paysans et les ouvriers, les choses comme ça, tous à 5 heures, ils se briquaient, tout, et puis ils partaient dîner en ville pour draguer les filles.
Ah oui.
Oui.
Les Anglaises.
Mais n'oubliez pas, nous sommes quand même. Quelques années avant ce soir.
Oui.
C'est pas la même chose. Et nous, comme nous étions tous des collégiens, des pensionnaires, des choses comme ça, ben les filles, ça n'existait pas. On couchait avec les filles quand on était prêt de se marier avec elles.
Oui.
Alors on faisait, si on voulait essayer.
Oui.
Donc, on attendait. Mais. Et alors, c'était très intéressant, parce qu'il y a cette patate. Et donc, tous les ceux qui restaient, c'était ça. Et mon ami Guéna, par exemple, je vous cite toujours Guéna, parce que je me souviens de lui, et qu'il était mon voisin de plumard, en plus, dans ce truc d'officier. Ben, c'était ça, nous jouions aux cartes, on jouait au bridge, on jouait, etc., etc. Enfin, bref. Alors, au bout de quelques jours, je reçois... ce garçon qui dit, écoute, j'étais à Londres hier et tu es convoqué à Londres parce que le colonel Patti, qui est le directeur du BCRA, le chef du BCRA, veut te rencontrer.
Oui.
Alors, on pensait que c'était pas. Et donc, je vais à Londres et c'était tout petit, le BCRA. C'était tout petit. C'était derrière Selfridges, qui est un immense magasin comme le Printemps, comme un truc comme ça. Et derrière, c'était un tout petit bâtiment. Et bon, alors j'arrive, il y avait rendez-vous à 3 heures, j'arrive à 2h30, etc. Je sais pas. Je monte. Et alors, dans tout ce petit, le planton m'emmène dans le bureau, qui était le dernier bureau, qui était ça, il y avait une table, et puis il y avait deux fauteuils qui étaient collés, et le colonel Patti. Et alors, je fais claquer mes talons, et il me dit, asseyez-vous. Et il m'a dit, mais je voudrais parler un petit peu, parce que je ne sais pas si vous savez ce que vous allez faire en France. Alors, je lui dis non, personne n'en a parlé, mais je suis volontaire pour. Il me dit d'abord, je dois vous dire une chose, c'est que si vous allez en France, vous avez peu de chances d'en rentrer vivant. Ah bon? Enfin non, mais ça c'est pas. Bon. Parce que Vous savez, au bout de 3 mois, 6 mois, il y a tellement de choses à faire en France que je dois vous prévenir. Et il faut que vous y pensiez. Deuxièmement, quand vous allez en France, vous vous battez seul. C'est-à-dire, vous n'avez pas de camarades, vous n'avez pas de femme avec qui vous vivez, de choses comme ça. Vous couchez seul, votre chambre, personne ne la connaît. Vous êtes seul à rentrer, à sortir le soir, le matin, etc. Voilà. Donc, un, c'est la solitude. Et deux, vous avez toutes les chances d'être pris par les Allemands. Et trois, ben, souvent, ils vous torturent quand ils vous arrêtent. Vous avez des chances qu'ils vous fusillent. Et si vous échappez à tout, eh ben, ils vous enverront dans des camps et on vous reverra si vous tenez le coup dans les camps après la guerre. Alors, il me dit, je vous demande de réfléchir. Vous êtes encore libre, vous ne vous êtes pas engagé encore dans le BTRA, mais réfléchissez. Et si vous me dites que ça n'est pas du tout une tâche dans votre histoire. Je me suis levé comme un ressort et je me suis mis au garde à vous et je lui ai dit, bon, c'était un capitaine Passy.
Capitaine, il n'était pas encore capitaine, André de Vavrin, c'est
et
ça.
Je lui ai dit, mon capitaine, en dépit de tout ce que vous m'avez dit, eh bien, je suis d'accord et je vous prie de m'engager dans le BTRA. Il m'a rien dit. Il m'a dit, bon, ben écoutez, quand nous aurons décidé, je vous ferai signe. Et puis je suis parti.
Et vous repartez et vous attendez.
Et alors,
peu de temps.
Eh bien, le 10 août, et je m'en souviens, parce que c'est le jour de mon anniversaire,
bien.
Le 10 août 1941.
10 août 41, oui, c'est ça.
Et il y a mon camarade qui est prêt, et moi, et ainsi de suite. Mais la camionnette, on devait prendre le train, d'après ce qu'on nous avait dit, mais la camionnette qui nous conduisait au train n'avait pas le droit de rentrer dans le camp. Parce qu'il faut vous dire qu'il y avait si peu de soldats que le colonel, qui était un colonel à la retraite, qui commandait le camp, interdisait tous les gens qui venaient recruter. Parce qu'il y avait pour les parachutistes, il y avait pour le service secret, il y avait pour la radio, enfin pour tout. Et alors, à l'entrée du camp, il y avait le service qui... Les voitures étrangères au service n'avaient pas le droit de rentrer dans le camp. Voilà. Et alors nous sommes partis et nous sommes arrivés le soir dans une charmante propriété et on nous a dit, eh bien, le lendemain, demain matin, vous allez apprendre à sauter en parachute. Ah bon ? Ah ben ça, on ne m'avait jamais dit. Oui, mais enfin, ça c'est... Je suis peut-être pas très sportif. Bon, et alors le lendemain matin, à 7 heures, il y a eu un officier anglais qui est venu dans notre chambre pour faire la gymnastique. Nous avons fait une heure de gymnastique comme jamais je n'en ai fait pas. Jamais. Jamais avant, jamais après. Et quand nous sommes rentrés de la gymnastique, tous nous sommes mis au lit. Alors, il nous avait expliqué qu'il fallait être très en forme, parce que pour sauter en parachute, eh ben, quelquefois, le parachute s'ouvrait mal, on tombait par terre, il fallait courir, etc. Et que, bon, enfin, donc, il fallait être très en forme.
Très en forme et sportif.
Donc, on était au lit pour être
en forme.
Voilà. Et alors, l'après-midi, on nous a fait monter à 2000 mètres. Alors là, on était au sommet. Et alors, il y avait un trou par lequel on sautait. Mais ce n'était pas pour sauter. Tout le monde, on était 10, et tout le monde, c'était... Parce qu'il y avait 10, volontaires dans le camp. Nous étions 10. Et on s'est mis autour du trou pour regarder. Ben, c'était... On trouvait ça merveilleux, c'était très joli et tout. Et puis... Et alors,